plus cohérent, plus durable, plus parfait, la possibilité de revenir dans une relation avec Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, on peut dire qu'il en fit un être relationnel. C'est toute la différence entre l'homme et la créature animale qui nous entoure, la création animale. Dieu a créé un homme et une femme avec cette perspective qu'ils soient libres d'être en relation avec lui. C'était une folie, ou le plus bel acte d'amour qui soit. Je veux un homme et une femme qui aient la liberté de me choisir, de m'aimer et d'être en relation avec moi. Lorsque Dieu créa l'homme, il en fit une création destinée à être en relation avec lui, mais aussi à être en relation horizontalement les uns avec les autres. L'être humain est un être relationnel et qui ne peut pas vivre sa vie sans être dans cette double perspective d'une relation horizontale et d'une relation verticale. Relation avec l'autre, relation avec Dieu. C'est la pensée de Dieu lorsqu'il a créé l'homme et la femme. Ce n'est pas un être humain qui est destiné à vivre seul. Ce n'est pas un être humain qui est destiné même à être sans une relation ou une recherche de relation avec son Créateur. Quelqu'un disait, depuis ma jeunesse, j'entends cela, que Dieu a créé l'homme avec un vide en forme de Dieu à l'intérieur de son cœur. Il y a un vide, il y a quelque chose qui aspire l'homme à rechercher celui qui est son Créateur, mais qui lui donne l'obligation aussi d'être dans une relation avec ceux qui l'entourent. Alors, ce texte de l'apôtre Paul, adressé aux Corinthiens, nous parle d'une réconciliation par Christ qui nous donne la possibilité d'entrer dans une réconciliation avec Dieu, mais aussi avec les autres, dans une relation qui est à nouveau possible. Et cette relation, c'est d'abord une relation vis-à-vis de soi. J'ai envie de dire qu'il y a trois niveaux qui seraient à évoquer ce matin. La réconciliation me permet d'être à nouveau dans une relation avec moi-même, d'être à nouveau dans une relation avec l'autre et d'être à nouveau dans une relation avec Dieu. La première chose, c'est d'être réconcilié avec soi-même et de pouvoir à nouveau être dans une vraie relation à soi. Oh, se réconcilier avec soi-même, parce que en Jésus-Christ, je retrouve la possibilité de devenir ce que Dieu veut que je sois. Être réconcilié avec soi-même. Ne plus être fâché avec soi. Ne plus être dans la négation de ce que je suis et de ce que Dieu a prévu que je sois. Lorsque Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ, c'est afin que nous retrouvions cette dimension de qui je suis en Jésus-Christ. Pas ce que mes parents ont voulu que je sois, pas ce que le péché a pu générer comme blessure, meurtrissure dans ma vie, mais je peux, par la réconciliation que je trouve en Jésus-Christ, retrouver une vraie relation avec celui que je suis ou celle que je suis. Une guérison, une possibilité de vivre à nouveau réconcilié avec soi-même. La première, peut-être, étape, c'est d'accepter et de se dire que celui et celle que je suis, c'est ce que Dieu a voulu que je sois. Dieu a voulu que je sois l'individu que je suis, moi. Moi, on aimerait tellement être les autres, l'autre d'à côté, celui qui me semble plus beau, plus fort, plus riche, plus agréable, celui qui, dans la cour d'école, est le plus populaire, hein, par rapport à moi. Mais être réconcilié par l'œuvre de Jésus-Christ vis-à-vis de ce que je suis dans le cœur du Père, c'est accepter et reconnaître que Dieu a voulu que je sois celui que je suis. Lors de la chute, le péché commis est un acte de désobéissance, certainement, véritablement. Mais c'est aussi dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 23, on le voit, une volonté de l'homme d'être autre que ce que Dieu veut qu'il soit. Je veux prendre des raccourcis, je veux devenir, pas ce que je suis, mais un rêve, une utopie, je veux être semblable à Dieu. Une négation de ce que je suis en tant qu'être humain, que création, dans le cœur du Père, et de prendre le chemin pour grandir, me développer et découvrir avec Dieu ce que je suis. Je parle souvent de Cham, qui a un des fils de Noé, qui a été rapporté et colporté la nudité qu'il avait vue de son père. Et pour moi, il est fortement probable que la malédiction qui s'attache à Cham, c'est une malédiction qui est semblable à celle d'Adam, à savoir un homme qui a voulu prendre un raccourci pour grandir et s'élever, plutôt que de rester à côté de son père et de profiter de ce que Noé était pour le faire grandir. La malédiction, c'est Noé a pris ce que lui avait fait son fils. Qu'avait fait son fils ? Il avait juste été causé aux autres, colporté la nudité de son père, rabaisser son père pour éviter d'avoir à grandir lui-même. Qu'a fait Adam, qu'a fait Ève ? Simplement choisir un chemin qui aille plus vite plutôt que d'être à côté du Père et de grandir avec lui. Le péché en Éden est un acte de désobéissance, certes, mais c'est aussi une négation du parcours, du chemin que le Père nous propose pour aller à la découverte de ce qu'il y a en nous et qu'il a créé, posé dans nos vies pour que nous soyons un homme, une femme selon son cœur. Dans la Genèse, chapitre 2, verset 23, il est dit que Adam, voyant Ève, dit « Celle-ci est la chair de ma chair ». Adam ne découvre pas simplement la femme Ève dans son vis-à-vis, son miroir. Dans ce miroir-là, il se voit. Un vis-à-vis, c'est cela. Il se voit. C'est-à-dire qu'il se découvre lui-même. Et c'est bien là le miracle du Créateur, de proposer à l'homme et à la femme un chemin pour se découvrir, y compris par rapport à ses vis-à-vis au niveau horizontal. Comment est-ce que je peux me découvrir dans mon rapport à l'autre, dans ma relation à l'autre ? Dieu ne nous a pas mis, n'a pas prévu que nous soyons sur une île déserte, chacun pour notre part. Le tentateur, lui, propose un raccourci, un stratagème, un produit, une pomme, l'alcool, la cigarette, la drogue, l'ambition professionnelle, plein de choses qui peuvent nous faire penser qu'on peut devenir, plutôt que d'être dans une relation avec Dieu qui me permette de grandir et de devenir ce que lui a créé dans l'homme et la femme que je suis. L'adversaire propose de faire un chemin, non pas en soi, mais d'arriver directement sans grandir, sans aller à la rencontre de soi-même, ce que proposait le Créateur. Alors le miracle de la réconciliation dont parle Paul commence par la réconciliation avec soi-même. Accepter l'œuvre de réconciliation dans ma vie vis-à-vis de moi-même, avec l'être que Dieu a créé. Est-ce que je suis prêt à me réconcilier avec moi-même ? Quand il est dit que Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ, mais si je ne suis pas réconcilié avec moi-même. L'apôtre Jean parlera de la relation horizontale, de la réconciliation vis-à-vis de l'autre, de mon frère. Puis-je dire que je suis un enfant de Dieu si je suis en colère ou séparé de mon frère? Mais le premier frère, la première sœur avec laquelle ou lequel je dois être réconcilié, c'est avec moi-même. Est-ce que je suis prêt à accepter cette œuvre de réconciliation, d'être à nouveau en capacité d'être en relation avec moi véritablement et d'accepter cette œuvre de Dieu? Dieu a voulu que j'existe. Ça, c'est peut-être une première étape de réconciliation avec moi. Je ne suis pas le fruit du hasard, je ne suis pas le fruit de quelque chose qui s'est produit comme cela. Quand j'étais enfant, j'ai eu un problème d'identité puisque je n'avais pas de nom de famille, ou quasiment pas. J'en avais un, mais je ne connaissais pas le père, qui n'avait jamais été à mes côtés. Et ma mère m'avait raconté que Jean-Marc avait été choisi, non pas parce qu'elle aimait ce prénom, vous savez, c'est important le prénom d'un enfant. Je ne sais pas pour les papas et les mamans qui sont là, ou pour les enfants que vous êtes, qui ont reçu leur prénom, comment ça s'est fait, mais c'est important la manière dont on dit aux enfants la manière dont on a choisi le prénom. On dit, voilà, j'ai rêvé, moi j'étais adolescent, j'avais toujours rêvé en me disant, si j'ai une fille, elle s'appellera Elisabeth. J'ai une fille. Je l'ai appelée Elisabeth. Pour elle, c'est bon de savoir que son père, alors qu'il n'était pas encore en âge de se marier, avait déjà rêvé à cette fille en lui donnant son prénom. À Maëlys, on avait dit, bien voilà, c'est notre enfant, notre troisième. On est en Bretagne depuis tant d'années, on veut marquer le fait qu'on est dans cette terre. On l'avait appelée Maëlys, petite princesse en breton. Christophe, on avait réfléchi avec Francine, on disait, faut que ce soit un nom qui soit signifiant sur notre volonté d'être en Christ ensemble. Christophe, porteur de Christ. Moi, ma mère m'avait dit, ta naissance, elle n'était pas vraiment voulue, c'est plutôt le fruit d'une faute, d'une erreur. Alors déjà, comment est-ce qu'on reçoit, est-ce qu'on vit cela? Quand on reçoit cela, et je dis, mais alors, et mon prénom, comment tu l'as choisi? On m'avait placé dans une institution religieuse. Le prêtre qui partait à la retraite s'appelait Jean. Celui qui arrivait s'appelait Marc. Je dis, j'ai eu de la chance. Ça aurait pu être pire. Rencontrer Dieu, ça m'a permis d'être réconcilié avec cette histoire. Parce que là où ma mère me disait, fruit du hasard, fruit d'une faute, hasard dans le prénom, etc. Lorsque j'ai rencontré Dieu, Dieu, en tant que père, m'a dit, mais tu sais que même si ta mère avait cette position-là, moi, je t'ai voulu et je t'ai pensé de toute éternité. Ça a guéri des choses en moi. Dieu a voulu que j'existe. Il a, avant même que la terre soit créée, il s'est dit, quand je créerai la terre, je prévois d'envoyer mon fils parce qu'il faut que Jean-Marc soit sauvé. Ça m'a réconcilié avec moi-même, avec l'idée que j'étais voulu par Dieu. Est-ce que vous avez ce sentiment en vous, profondément ancré, que Dieu a voulu que vous existiez, que vous avez de la valeur à ses yeux, que vous êtes précieux? Vous savez, je crois que c'est notre frère de Rouen, Philippe Piac, qui a sorti un billet pour parler de la valeur, hein, la valeur que l'on a. Et un prédicateur avait pris un billet de 50 euros, l'avait dit, il dit, qui veut ce billet-là? Et puis plein de mains s'est élevé, il dit, attendez, il a pris le billet, il l'a bien chiffonné, et il a dit, voilà, maintenant, qui le veut encore? Autant de mains levées. Il dit, attendez. Il a pris le billet, il a marché dessus, il l'a bien écrasé, et il l'a repris, il était sale de la souillure de ses chaussures, de la poussière, il a dit, qui le veut encore? Il y avait autant de mains levées. Pourquoi? Parce que le billet a toujours la même valeur. Et même si nos vies ont été abîmées, même si elles ont été souillées, même si elles sont pleines de poussière, même si elles sont abîmées par le péché ou par la souffrance ou par des tas de choses qui nous envahissent, aux yeux de Dieu, elle est tout aussi précieuse. Est-ce que nous avons cela en nous qui nous permet d'être réconciliés avec nous? Ah, c'est dans l'Ancien Testament et dans la Bible, on a plusieurs personnages qui ont des problèmes avec ce qu'ils sont, avec leur image. Les deux que je connais, que je mets souvent en avant, c'est Moïse. Moïse qui avait deux mamans. Une première qui était une maman juive et qui a dû le sauver en le confiant au flot. Et puis ensuite, une maman égyptienne qui l'a adoptée, qui était fille de Pharaon et qui l'a élevée à la cour. Et cet homme-là, quelques années plus tard, lorsqu'il était adulte, avec cette double histoire, on peut imaginer qu'il la portait comme quelque chose de déchirant. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je vaux? Quelle place j'ai? Et c'est certainement ce que nous nous posons aussi comme question. Quelle est la valeur que j'ai aux yeux de Dieu? Eh bien, Moïse, à l'âge de 80 ans, je crois que c'est au moment où il a été devant le buisson ardent et qu'il a demandé à Dieu de lui dire son nom et qu'il a reçu une révélation de Dieu que cet homme-là est devenu ou a été guéri de son passé. Cet homme qui avait tué un Égyptien par colère, qui bégayait, le bégaiement est souvent le signe d'un stress, de difficulté là aussi à s'accepter. Cet homme qui disait à Dieu devant le buisson ardent, non, je suis incapable, je ne vaux rien, je ne pourrai jamais parler. Dans Exode, au chapitre 4, verset 10, c'est Moïse qui dit « Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile », c'est-à-dire « J'ai la langue lourde, je ne peux rien faire ». Combien d'entre nous peuvent dire « Voilà, moi aussi, je suis alourdi par le passé, par mon histoire, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je pourrais devenir ?» Et lorsque Dieu lui donne son nom à lui, celui qui est à ce moment-là, quand Moïse pose cette question, quel est ton nom? C'est là, face à Dieu, que Moïse va découvrir son identité, va découvrir qu'il est quelqu'un, un homme selon le cœur de Dieu, voulu par Dieu, aimé par Dieu. Jacob, un menteur, un voleur, un tricheur, qu'est-ce qu'il peut devenir? Et puis il y aura le combat avec l'ange, l'échelle de Jacob, là aussi une rencontre avec Dieu qui fait que cet homme va pouvoir acquérir la conscience d'être aimé de Dieu. Puis il y a les petits chouchous, les Samuel ou les Jean-Baptiste, vous savez, je dis souvent, ces deux-là, ils auraient dû s'appeler Désiré, pas Samuel et Jean-Baptiste, ils sont tellement voulus par leur maman, par leurs parents, on le veut, on le veut, puis dès qu'il sera là, on le consacrera. Ouais, il y a ceux qui ont des avantages, puis d'autres qui ont des chemins de vie plus compliqués. Mais par le miracle de la réconciliation en Jésus-Christ, Dieu rend possible une nouvelle relation à soi-même. Je peux être réconcilié avec moi-même. Est-ce que je veux accepter cette œuvre de réconciliation avec moi? C'est David. Vous savez, David, moi je dis souvent, on l'idéalise, on le voit comme un roi parfait, un ami selon le cœur de Dieu, mais c'est quand même lui qui dit « je suis une puce et je ne vaux rien ». Je suis une puce sur le dos d'un chien. Un fils qui a été oublié par son père pendant que Samuel arrivait pour choisir un roi, était oublié au champ. Un frère qui n'était pas forcément bien accepté par ses autres frères, etc. Je ne vaux rien, je suis une puce. Peut-être que parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui se disent, mais voilà, au plus profond de moi, mais j'ai pas les compétences, les capacités, je ne vaux rien, je n'ai pas de qualité. J'en entends certains, non ? Au milieu de nous qui ont ce discours-là, quand on partage ensemble. Et je dis, David, à un moment donné, au psaume 139, dit, « Ah Seigneur, je te loue d'être une créature si merveilleuse. » Alors on va faire un exercice. C'est le psaume 139, verset 14. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez l'ouvrir. Et ceux qui ne l'ont pas, de toute manière, c'est juste une phrase. Ouvrez votre Bible. Psaume 139, verset... Allez, on va lire le verset 13 ensemble. Vous y êtes? Quand en plus c'est écrit sur le mur, personne ne peut y échapper. Et on va le lire à haute voix ensemble. D'accord? C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. C'est bon ? On l'a bien lu ? Alors on va relire le verset 14, mais on va le proclamer et on va se le proclamer à soi et à Dieu. D'accord ? En se posant la question, est-ce que je crois profondément que je suis une créature merveilleuse ? Posons-nous cette question-là. Alors on lit le verset 14. À haute voix et fortement, que là aussi dans les lieux célestes, quelque part, par le Saint-Esprit, on puisse dire, voilà vraiment, je proclame que je suis une créature merveilleuse. On est prêt ? Je te loue ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Amen. La réconciliation de Dieu, l'œuvre de la réconciliation, c'est d'abord une réconciliation avec ce que je suis devant Dieu et en Dieu. On me dit « je suis en Christ », d'accord. Mais si je suis en Christ en niant l'évidence, la vérité, le plan de Dieu pour ma vie, alors je passe à côté de l'œuvre réelle de la réconciliation qui a pour objectif pour Dieu d'établir une nouvelle relation. Pas seulement avec lui. Comme David qui disait au Seigneur, j'ai une relation avec toi. Moi la puce, moi qui ne suis rien, qui ne vaut rien, j'ai une relation avec toi. Mais c'est nier l'œuvre de la réconciliation qui a pour objectif pour Dieu que nous puissions nous voir avec le regard que le Père lui a. Souvent, quand parmi nos enfants, l'un de nos enfants parlait mal de son frère ou de sa sœur. Vous savez ? Ah oui, mais lui, il est comme ça, tu sais, maman, papa, lui, il a ce mauvais caractère, et puis là, il a cette attitude, etc. Et souvent, Francine avait une expression, elle disait, arrête, tu sais de qui tu parles ? Tu parles de mon fils, tu parles de ma fille. Moi, en tant que mère, je ne peux pas entendre ce que tu dis de ton frère ou de ta sœur. Parce que je le vois et je la vois différemment en tant que mère. Est-ce que Dieu, par son Esprit Saint, ne s'adresse pas à nous ce matin aussi pour nous dire, attention, quand tu parles de toi, quand tu poses ce regard sur toi, tu es en train de parler de mon fils, de ma fille. Est-ce que le Christ ne vous dit pas, ne pose pas cette parole, attention, quand tu parles de toi de cette manière, tu parles de celui ou de celle pour lequel et pour laquelle je suis mort à la croix. C'est de cela qu'il s'agit. J'ai de la valeur, je suis unique, parce qu'aux yeux du Père, je suis son bien-aimé, celui qui l'a créé. Hein, vous vous rappelez, quand Abraham est sollicité par Dieu pour qu'il lui offre son fils, et Abraham qui lui dit « Mon fils, mais lequel ? J'en ai deux !» Et puis, vous avez cette réponse de Dieu, « Mais ton unique ? Ah, mais ils sont tous les deux uniques à mes yeux. Tous les deux. Ismaël, Isaac, ils sont tous... Ah oui, mais alors, celui que tu aimes ? Oh, mais Seigneur, je les aime tous les deux. Isaac. Il donne son nom en disant, en faisant sentir à Abraham, c'est celui-là que je veux, celui qui est unique, précisément avec ce nom. Je suis unique. Certains diront, heureusement. Mais je suis unique aux yeux du Père. Et d'ailleurs, ce qui marque cela, c'est ce que l'on lit dans l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 17, lorsqu'il est parlé du vainqueur auquel on donnera un caillou, et sur ce caillou est écrit un nouveau nom, uniquement connu de celui qui le reçoit. Il y a dans ma relation avec mon Père, dans cette réconciliation, le désir de Dieu de dire, vois, regarde, pour moi, tu es un individu unique et précieux à mes yeux. Est-ce qu'on a, dans l'œuvre de la réconciliation qui nous est donnée par Christ, cette conscience-là d'être unique ? Tu auras même un nom et il n'y a que toi et moi qui le connaîtrons. Tellement tu es unique. Non, tu n'es pas noyé sur la troisième rangée, au milieu de l'église, sur telle chaise, au milieu de l'église. Non, tu es unique à mes yeux et tu es béni. Moi, j'aime bien cette notion de béni. La réconciliation, c'est cette conscience que, dans ma relation avec moi, je suis quelqu'un qui est béni par Dieu. profondément béni. Hein, j'aime bien cette notion-là, je l'ai souvent partagée avec Jean-Jacques, hein, en disant, est-ce que Jean-Jacques, ayant la connaissance de l'Afrique du Sud et de la baraka, je disais, c'est le mot bénédiction, baraka. Et il y a à la fois cette notion de bénédiction qui a été mal, certainement, évoquée, transmise ces derniers mois, sur la bénédiction des couples homosexuels, parce qu'il y a une erreur, me semble-t-il, profonde sur le concept, la pensée, l'enseignement de ce que c'est que la bénédiction. En hébreu, la bénédiction, la baraka, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une force supplémentaire, dans le sens où on dit, voilà, c'est pour te permettre, en te disant cela, d'avoir encore plus conscience de ce que Dieu te donne. Oh, puissance, force, énergie, je ne sais pas comment il faudrait le dire. Mais une bénédiction, c'est quand on dit à quelqu'un, voilà, je te bénis sur ce que tu es, par cette parole-là, on augmente, on lui donne en tout cas la possibilité de croire encore plus en ce qu'il est. Quand les patriarches bénissaient leurs enfants, c'était pour leur dire, voilà, le précieux, ce que tu es pour moi et ce que tu vas être. Je te bénis pour cela, pour ce que tu vas devenir. Avoir conscience de plus en Dieu de ce que nous pouvons avoir. Et puis, le mot baraka qui vient d'une racine bachor signifie aussi source. C'est donc connaître la bénédiction. Connaître que je suis béni, c'est connaître la source qui me bénit. Et on ne peut pas, je dirais, être dans une réconciliation avec soi-même et se dire « je suis quelqu'un qui est béni par Dieu » sans augmenter sa connaissance de celui qui est la source de la bénédiction. Et c'est peut-être là aussi que sont les erreurs sur le concept de bénédiction, où on pourrait bénir n'importe quoi et n'importe qui au milieu de l'Église, y compris des couples homosexuels, parce qu'on ne peut pas déconnecter la notion de bénédiction de la connaissance de celui qui bénit. Ou alors, ce serait d'avoir une idée de la bénédiction, vous savez, comme on peut l'avoir dans certaines églises de Pentecôte concernant la guérison. Quand on parle de miracle avec Dieu, on se dit « Ah, j'ai été béni, j'ai été guéri, j'ai vécu une guérison !» Oui, qu'est-ce que ça t'a appris de Dieu ? Qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir de ton Père ? Qu'est-ce que ça t'a donné comme relation plus étroite par rapport à celui qui t'a béni ? Parce qu'une bénédiction n'a pas d'autre sens que de me mettre en rapport avec celui qui me bénit et de le connaître davantage. Est-ce que j'ai été béni dans ce sens-là ? Ou est-ce que je n'ai vu ou je ne vois que la guérison ou l'acte miraculeux dont j'ai fait l'objet ? Être béni, c'est être au bénéfice d'une source de bénédiction et de connaître celui qui est à l'origine de cette bénédiction. Ça me fait penser à un texte comme bien Michel, qui est dans Josué, au chapitre 15, verset 19, vous savez, cette jeune femme qui dit à son père, voilà, fais-moi un présent, tu m'as donné une terre du midi, donne-moi aussi des sources d'eau, celle d'en haut et celle d'en bas. Donne-moi des sources pour être béni. Bon, ça, c'est pas forcément bien continué, mais voilà, est-ce que je suis de ceux dans l'Église, dans le corps de Christ, dans le peuple de Dieu qui disent, voilà, j'ai été béni, je suis béni. Cette réconciliation que j'ai vécue avec Christ et en Christ, c'est une bénédiction qui me permet d'être béni au plus profond de moi. Ah, la réconciliation, la relation avec Dieu. La relation avec Dieu, ça peut être une relation, vous savez, à des degrés très différents. On est une relation avec soi-même, transformée, guérie, mais une relation avec Dieu. Est-ce que je suis, lorsque je rentre dans un projet de réconciliation avec Dieu, aussi dans une relation avec Dieu différente ? Quand on lit le Nouveau Testament et les Évangiles, on s'aperçoit qu'il y a au moins 6 niveaux de relation entre les individus. On pourrait dire même peut-être 7. Il y a ceux qui n'ont aucune relation avec Jésus, qui le voient passer et qui n'entretiennent pas, et qui ne découvrent pas ou qui ne rentrent pas dans une relation avec Christ. Et puis, vous avez des foules qui suivaient Jésus et qui recherchaient pour ses miracles. Ça, c'est une relation. On a parfois des gens qui viennent dans les églises quand il y a une bonne réunion d'évangélisation, quand on annonce qu'il va y avoir un ministère qui va venir pour imposer les mains et guérir les malades. Vous avez parfois des gens qu'on voit arriver tout à coup, comme du temps de Jésus, pour dire « Ah oh ben ça, on veut voir, on veut voir. Ah ça, c'est une relation comme une autre. » Ces foules qui suivaient Jésus, mais qui n'allaient pas plus loin dans la relation avec Christ. Puis vous aviez les disciples, vous savez, un peu comme ceux dont il est parlé au sermon sur la montagne, qui venaient entendre, écouter, qui étaient en bordure, à la limite, un peu loin. Il y avait des frères et des sœurs qui avaient peint une fresque dans une de nos anciennes églises où on voyait cela. J'aime beaucoup cette pensée-là. On voyait qu'ils étaient très proches de Christ, puis il y en avait qui étaient sur le chemin, de loin, qui tendaient l'oreille, qui écoutaient. On peut être dans cette relation un peu lointaine avec Christ. Puis il y avait les 70 disciples. Alors ces 70 disciples qui participaient à l'œuvre de Christ, passant par les endroits où lui-même devait aller. On n'en sait pas plus. Ils allaient, suivaient, ils passaient. Puis vous aviez les 12 apôtres. Alors là, ceux qui avaient été choisis par Christ pour les avoir auprès de lui, pour les envoyer prêcher. Puis vous aviez un niveau encore un peu plus fort de relation, c'était les trois, vous savez, qui étaient toujours dans les bons coups. Ça m'a toujours frappé, ça, Pierre, Jacques et Jean, toujours là dans les moments importants. Hein ? Ils lui collaient au basque. Ça, c'est de la relation. Moi, un peu comme Jacob, je te lâche pas, je veux voir tout ce qui va se passer. Pierre, Jacques et Jean, ils étaient là à Gethsémané, auparavant, ils étaient à la Transfiguration, ils ont été témoins d'une résurrection, enfin... Ils ont vécu des choses, mais parce qu'ils entretenaient une relation de proximité. Puis vous aviez celui qui, dans les évangiles, a une relation particulière, c'est Jean. Il est dit qu'il était celui que Jésus aimait et qu'il était au dernier repas couché sur son sein et qu'il était dans une relation d'intimité avec Christ. On a tout ce panel de possibilités de relations. Quelle sera la nôtre ? Être réconcilié, c'est entrer dans une relation avec Christ. C'est entrer dans une relation avec le Père. C'est entrer dans une relation avec l'Esprit-Saint. Quel sera le degré d'intimité que nous allons vouloir entre nous et Dieu ? Ce qui nous fragilise dans notre vie chrétienne, ce n'est pas l'absence de Dieu. Ce n'est pas l'absence de plan de Dieu dans cette relation avec nous, c'est notre positionnement vis-à-vis de Dieu et ce que nous voulons. On en est avec Dieu comme dans les relations humaines. Il y a des relations que l'on n'entretient pas ou qu'on entretient avec distance, vous savez. On fait la différence entre un copain et un ami. On ne les voit pas au même rythme. On n'entretient pas les mêmes rapports. Et puis entre un ami et un très proche, on a aussi un autre type de relation. Et puis entre un très proche et un membre de sa famille, ou son conjoint, ou ses enfants, on a aussi d'autres relations. Quelles sont les relations que nous allons tisser avec Dieu ? Alors ça peut être des relations avec un rapport de force, concevoir que... J'ai beaucoup de mal avec ça, vous savez, ces chants qui disent « Brise-moi, Seigneur, le vase que je suis, casse-le, modèle-moi, fais-moi passer par le... » Oula, j'ai du mal. C'est chanter et prier que Dieu me brise, me fasse passer dans le feu de la fonderie. Je ne suis pas forcément demandeur. Vous vous direz, bon, il n'est pas très spirituel. Mais on a ce type, vous savez, de rapport de force. On dit, voilà, la réconciliation, c'est d'être en relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu, c'est un Dieu qui veut nous briser, nous faire vivre des choses difficiles afin qu'au feu de l'épreuve, nous puissions être fortifié et purifié. Ouais, parfois ça arrive, c'est possible, mais qu'est-ce que nous dit l'Écriture ? Que dès l'Ancien Testament, Dieu est appelé Abba, Père. Que dit Christ ? Est-ce que si vous êtes méchant comme vous êtes, votre enfant vous demande du pain, allez-vous lui donner des pierres ? Est-ce que Dieu serait différent ? Dieu est un Dieu de grâce et d'amour. Et ce qu'il veut, c'est non pas que nous ayons une relation comme cela, où nous serions brisés, victimes, mais où dans une relation avec un Père, nous puissions vivre aussi ce qui est agréable et bon pour nous. C'est un Père. Est-ce que nous avons cette conscience-là aussi ? Dans cette réconciliation, la relation que Dieu veut instaurer entre moi et lui, c'est une relation d'un père à son enfant. Ça pourrait être aussi une relation, un rapport de punition. Ah oui, Dieu, je suis réconcilié avec lui, mais maintenant, voilà, il faut que je sois dans une attitude de contrainte et de soumission, parce que c'est le Dieu qui dit « tu ne mangeras pas de ceci ». De l'arbre du fruit, de la connaissance du bien et du mal, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras... Être dans « sinon », attention à ce qui va t'arriver. Et on peut, y compris dans l'Église aujourd'hui, être dans un rapport, là aussi, d'un Dieu qui serait le Dieu de l'interdiction et de la punition. Un peu comme il y a des parents qui sont comme cela, si tu ne fais pas cela, tu vas voir ce qui va t'arriver. Est-ce que l'éducation et la relation du père à l'enfant ou de la mère à l'enfant dans ce cadre-là est une relation épanouissante qui rend autonome, qui génère du bien-être ? J'en doute. Ça peut être des rapports non violents, mais répressifs. Voilà. Un peu comme certains parents qui disent « si tu ne fais pas, tu seras privé. Si tu n'as pas tant de bonnes notes, tu seras privé de sortie, cinéma, de ceci. » On peut être aussi vis-à-vis de Dieu réconcilié, mais avoir cette conception d'une relation à lui qui serait d'une relation où Dieu serait là pour nous priver si nous ne sommes pas bons, si nous ne sommes pas agréables à un certain code, à un certain cadre. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 15, dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Waouh ! Ça me plaît ! Plutôt que d'un Dieu qui dit, avec lequel j'entretiendrai, ah oui, donc si je ne fais pas ça, je vais être privé de ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette pensée. Vous savez, si je n'ai pas été béni, c'est parce que je n'ai pas été fidèle. C'est parce que ceci, c'est parce que cela. Ou si m'est arrivé ceci, c'est parce que je n'ai pas eu un comportement ou je n'ai pas fait le bon choix de vie. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ah, moi, ça m'a libéré de comprendre que même quand je me plantais, en face de moi, j'avais un Dieu et un Dieu de grâce. Ça m'a parfois aidé aussi à prendre des positions vis-à-vis de mes enfants. Je me suis dit, il faut que je sois aussi un père de grâce. Parce que j'ai aussi cela à transmettre. Je me rappelle de mon fils venant me demander une année sabbatique après 2 années financées à la fac de Rennes. Et il est venu un petit peu, sa mère lui a dit « Là, va voir papa ». Il y a des fois, c'est papa qui dit « Va voir maman ». Mais là, elle dit « Là, ça fait 2 ans que tu as un logement, que etc. etc. » Il avait été hébergé pendant une année chez Eliane, à Rennes, tout. Puis on a financé. Et puis, il dit « Une année d'autonomie, une année de... » Comment on appelle ça ?« Sabbatique », voilà. Alors, j'ai dit « Sympathique », ouais. Il est venu et il était quand même très, très en difficulté pour demander. Et moi, quand sa mère avait commencé à préparer le terrain, se dit, il faut que je prépare mon mari à recevoir le fils, je m'étais placé, je me suis dit, mais est-ce que je ne peux pas faire preuve là aussi de grâce en étant à l'écoute de là où il est ? Et ça m'avait aidé, moi, à accepter d'écouter, et peut-être de ne pas être dans la sanction et dire « Ah non, pas question, si tu fais ça, tu seras privé, tu feras, etc. » Non, mais d'être dans une attitude de grâce parce que Dieu m'a fait grâce, que mon Père m'a fait grâce et qu'il est bon que je fasse grâce à mes enfants et à ceux qui m'entourent. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans votre cœur, dans notre cœur, l'esprit de son Fils, dit Paul aux Galates, qui crie « Abba, Père ». La réconciliation que j'ai vécue avec mon Dieu est une réconciliation qui me permet d'entrer dans une relation avec lui, un Dieu de grâce. Alors, il y a une autre relation qui pourrait être évoquée, c'est la relation fonctionnelle. Vous savez, quand on est réconcilié, on pourrait être... Voilà, la relation fonctionnelle, vous savez, c'est... lui, c'est le chef, moi, je suis le soldat. Ce qu'il dit, je fais. Hein, voilà, on est dans une relation fonctionnelle. Maintenant, j'ai été réconcilié, je n'ai plus qu'à me soumettre et à agir tel qu'il me le dit. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas là-dedans que Dieu va nous faire rentrer. C'est dans une vraie relation. Là où je travaille, j'ai veillé à ce qu'il n'y ait pas de niveau hiérarchique, hormis celui qu'il y a entre moi et les salariés. Mais dans les services, il n'y a pas de relation hiérarchique. Il y a des relations fonctionnelles. Les infirmières sont dans une relation fonctionnelle avec le médecin. Les aides-soignantes sont dans une relation fonctionnelle avec les infirmières, etc. Voilà, on est dans une fonction. Est-ce qu'on est dans une relation fonctionnelle avec Dieu ? Ah oui, on va faire une réunion de prière parce que la fonction, c'est Dieu a tous les pouvoirs, la puissance, l'autorité, et nous, on est dans une relation, on doit demander. Donc voilà, il y a les demandeurs, il y a celui qui répond. Ça peut être conçu comme cela, la prière. Une machine comme ça, fonctionnelle, on prie, il donne, on prie, il donne. Ce n'est pas cela. La prière, c'est une question de relation, là aussi. Est-ce que nous sommes dans cette pensée qui nous est donnée par l'apôtre Paul ? Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation que nous avons apporté vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous et par rapport à notre Dieu. Et cette réconciliation, c'est une réconciliation qui nous engage à construire une nouvelle relation sur ces trois plans. Que Dieu, vraiment, on est là au cœur du message du salut. La réconciliation s'inscrit dans une volonté déterminée, voulue par Dieu, de construire une relation nouvelle à tous et nouveaux. Seigneur, nous voulons laisser ta parole faire ce chemin dans nos vies. Nous aider, Seigneur, à accomplir cette œuvre qui est la tienne. Ne pas la limiter en laissant de côté tes plans, tes perspectives, ton projet, tes objectifs. C'est vrai, Seigneur, que nous voulons être réconciliés et nous le sommes par Jésus-Christ. Mais nous voulons que cette réconciliation aboutisse à une vraie relation. Cette relation que toi tu veux dans tous les domaines de notre vie, à tous les plans. Seigneur, garde-nous de limiter l'œuvre de la réconciliation dans nos vies, mais bien au contraire à la laisser s'étendre, gagner du terrain, transformer notre existence, transformer notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres, notre relation avec toi. Accomplis, Seigneur, ce miracle dans chacune de nos vies. Amen.
Est-ce que je peux demander l'aide de Chambouille et Laurent ?